Voilà, donc je disais que la lecture pour la prédication d'aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 13, les versets 1 à 3. C'est un texte qui est court et je vais vous le lire. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez vous aussi un corps exposé à la souffrance. Frères et sœurs, le thème de l'amour est probablement l'un des plus abordés dans nos milieux chrétiens. Ce n'est sans doute pas pour rien, puisque le Christ en a lui-même fait un thème central de son évangile. Jésus disait « Aimez Dieu, aimez son prochain ». Ce thème n'est pas seulement un sujet populaire, c'est aussi un sujet à la fois vaste, mal compris et difficile. Vaste parce qu'il a plusieurs nuances. Dans le mot « amour » se trouve récapitulé à la fois ce que le croyant témoigne à son Dieu, vice-versa, ce que des frères et sœurs éprouvent les uns les unes pour les autres, ce qu'un couple se donne réciproquement, ce que les parents ressentent pour leurs enfants, vice-versa aussi, ce que les amis ou les camarades partagent, et j'en passe. La langue dans laquelle notre texte du jour est écrit, le grec ancien, avait plusieurs façons de dire le mot « amour ». C'est certainement un témoignage de la richesse que contenait pour eux ce concept, même si le sens de ces mots s'entrecroisait et se confondait parfois. C'est aussi un sujet mal compris parce que certains lui font dire ce qu'il ne dit pas. L'amour est parfois instrumentalisé auprès des victimes pour ne pas exercer la justice face aux agresseurs, comme si amour et justice étaient contradictoires. On va même jusqu'à dire « l'amour rend aveugle », alors que, justement, il devrait nous permettre de voir clair. Le sujet est aussi mal compris parce que d'autres refusent de le laisser dire ce qu'il dit vraiment. Quand on voit le nombre de personnes qui se disent chrétiennes et prétendent avoir l'amour chrétien, mais qui cultivent la haine de l'étranger, par exemple, pour le simple fait d'être étranger, on en vient à se demander si le message d'amour qu'enseigne l'Évangile est vraiment compris. C'est dans ce sens, chers frères et sœurs, que le sujet est aussi, et enfin, difficile, parce qu'il est exigeant. Il nous appelle à dépasser nos ignorances, nos connaissances, nos préjugés, pour y mettre quelque chose de plus grand. Comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand, la plus grande des trois, est l'amour. » Je vous propose ce matin de parler de ce sujet à la fois vaste, mal compris et difficile, en nous limitant à trois aspects de l'amour que nous propose notre texte du jour, Hébreux 13, 1 à 3. L'auteur nous parle de l'amour fraternel, de l'amour hospitalier au sens premier du terme, et l'amour solidaire. Frères et sœurs, le dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux se présente comme une succession de brèves recommandations. Les trois premiers versets, les versets que nous avons lus, sont comme liés par ce thème de l'amour, et chaque verset en aborde une forme toute particulière. Au premier verset, l'auteur parle de l'amour philadelphia, l'amour envers les frères et les sœurs. Il dit que la Philadelphia demeure. L'auteur ne demande pas aux chrétiens de commencer à s'aimer. Il suppose que cet amour existe déjà entre eux. Il leur demande simplement de le laisser durer. Ce n'est pas, frères et sœurs, l'enthousiasme des premiers jours qui fait vivre une communauté, c'est la fidélité. Il peut être facile de commencer une relation, il est beaucoup plus difficile de la faire durer. Dans nos sociétés modernes, on valorise beaucoup la nouveauté et nous multiplions les expériences, nous changeons rapidement nos objets du quotidien, parfois même nos amis. Nous sommes fascinés par ce qui commence et nous avons davantage parfois de mal avec ce qui dure. Pourtant, une bonne partie de ce qui compte vraiment dans une vie demande du temps. Une amitié profonde se construit dans le temps. La confiance ne naît pas instantanément. Un couple grandit avec les années. La foi elle-même n'est pas un feu d'artifice émotionnel. Elle est une fidélité. L'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse à une communauté qui est fatiguée. Certains croyants sont découragés, d'autres sont tentés même d'abandonner. Et dans un tel contexte, l'urgence n'est pas d'organiser davantage d'activités nouvelles, c'est de préserver ce qui fait tenir le groupe, la qualité des liens. Une église ne devient pas vivante parce qu'elle est nombreuse ou dynamique, elle devient vivante lorsque chacun, chacune, sait qu'il a, qu'elle a sa place et qu'elle sera accueillie comme un frère et une sœur en Christ et dans l'amour. Mais cet amour, frères et sœurs, ne peut pas rester enfermé à l'intérieur du groupe. Dans le deuxième verset, il ne s'agit plus de Philadelphia, mais l'auteur nous parle cette fois de la Philoxénia. Il dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». En grec, le mot est beaucoup plus fort que notre traduction française. Il ne signifie pas simplement « recevoir les invités », il signifie littéralement « aimer l'étranger ». La construction littéraire des deux premiers versets est à la fois un jeu de mots, mais aussi une progression. L'auteur passe de la Philadelphia, l'amour des frères et sœurs, donc proche de soi, proche de moi, à la Philoxénia, l'amour des étrangers, loin de moi. Il nous apprend que l'amour chrétien ne s'arrête pas aux frontières de la communauté. Il commence, bien sûr, chez les frères et sœurs, mais il ne peut pas s'y enfermer. Il est très frappant de constater que la Bible ne donne jamais ne dit jamais si l'étranger en question est sympathique, utile à la communauté ou reconnaissant, etc. Elle demande simplement de l'accueillir. Parce qu'Israël a lui-même été étranger en Égypte, parce qu'Abraham a vécu comme étranger sur la terre promise, parce que les premiers chrétiens se savaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous oublions souvent que nous sommes toutes et tous, d'une manière ou d'une autre, des étrangers. L'enfant est étranger à ses parents avant qu'ils apprennent à le connaître. Deux époux restent toujours en partie des mystères les uns pour les autres, l'un pour l'autre. Même celui qui prétend se connaître soi-même découvre parfois certaines choses de lui qu'il ne savait pas et il se rend compte qu'il est aussi quelque part lui-même étranger à soi. Un penseur juif français du nom d'Emmanuel Lévinas voyait dans le visage de l'autre une réalité qui échappe toujours à notre maîtrise. Parce qu'en tant qu'humains, nous préférons souvent ce que nous contrôlons. Nous aimons les personnes qui pensent comme nous, qui vivent comme nous et qui confirment nos habitudes. Mais accueillir l'étranger, frères et sœurs, c'est accepter que notre monde ne tourne plus uniquement autour de nous. C'est accepter de se laisser déplacer par la différence. L'auteur va alors ajouter cette phrase remarquable. À travers l'amour de l'étranger, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Le mot qui est traduit par ange signifie d'abord messager. Le mot en soi ne donne aucune information sur la nature de l'ange. On ne sait pas si c'est un être humain ou un être céleste. Mais le mot nous parle seulement de sa fonction, messager de Dieu. Un ange peut donc avoir l'aspect humain, en tout cas tant qu'il est porteur d'un message divin. Le texte ne nous demande pas de chercher des anges cachés derrière chaque visiteur. Il nous rappelle plutôt que Dieu passe souvent par les personnes que nous rencontrons pour nous parler, notamment les étrangers. Peut-être, frères et sœurs, que le plus grand danger spirituel n'est pas de manquer Dieu dans les grandes expériences religieuses, mais de le manquer dans les rencontres ordinaires. Nous cherchons parfois Dieu dans l'extraordinaire alors qu'il frappe discrètement à notre porte sous les traits de l'étranger. Enfin, au verset 3 de notre texte du jour, l'auteur parle à deux reprises d'ailleurs de solidarité face aux tourments, ce qui est encore un autre niveau de l'amour parce qu'il nous invite à considérer la souffrance des autres. L'auteur nous invite à penser à la fois aux personnes qui subissent un châtiment juridique et à celles et ceux qui souffrent d'une épreuve injuste. Il nous demande de ne pas oublier les prisonniers, parmi lesquels, évidemment, se trouvent aussi des criminels, et de nous souvenir des maltraités qui subissent, pour leur part, une injustice. Parce que la dignité humaine est pour tout le monde, peu importe le passé. La solidarité à laquelle nous sommes appelés n'est pas une simple empathie distancée du réel. L'auteur nous invite à nous souvenir des prisonniers comme si nous étions liés avec eux. Et il nous exhorte à nous rappeler des maltraités en sachant que nous avons nous-mêmes un corps qui souffre. Il nous invite à avoir de la compassion les uns pour les autres, à partager les peines de nos semblables, comme s'il s'agissait de nos propres peines. Nous en avons bien besoin dans notre société où nous nous habituons si facilement à la souffrance des autres, avec le flux d'informations, avec l'actualité qui cesse d'avancer, de nous dépasser. Il nous arrive d'être presque quasiment indifférents aux souffrances des autres que nous voyons à la télévision. Et une philosophe du nom de Hannah Arendt parlait de la banalité du mal pour montrer que les pires catastrophes commencent souvent lorsqu'on arrête de penser et qu'on s'habitue à la souffrance des autres. Nous sommes invités à résister à cette anesthésie du cœur, à résister à cela, pour penser à la souffrance des uns et des autres autour de nous. Pour conclure, frères et sœurs, il y a un autre thème que l'auteur de la lettre aux Hébreux aborde à côté de celui de l'amour. Il ne parle pas seulement de l'amour fraternel, de l'amour hospitalier qui accueille et de l'amour solidaire, il parle aussi et presque à chaque fois du souvenir, de la mémoire. Souvenez-vous, n'oubliez pas. Ces deux impératifs ne sont pas anodins. Ils ne concernent pas seulement notre mémoire intellectuelle, ils concernent notre manière d'habiter le monde. Ils nous disent que la vie chrétienne est d'abord une affaire de mémoire. Il s'agit d'une mémoire qui fait vivre, qui transforme notre regard et qui nous empêche de devenir indifférents à la souffrance des uns et des autres. Ce souvenir n'est jamais simplement penser au passé. La mémoire biblique n'est pas simplement une mémoire qui est passive. Se souvenir, c'est rendre les choses présentes. C'est refuser que quelqu'un ou quelque chose disparaisse dans l'oubli collectif. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite aujourd'hui à retrouver cette mémoire active afin de partager réellement l'amour de Dieu autour de nous. Amen.